Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes au bout du foot, émission spéciale Coupe d'Afrique 2023 du côté de la Côte d'Ivoire, 34e édition du nom. On vient à l'instant de finir le match Cameroun-Sénégal qui s'est soldé avec la victoire justement du Sénégal, 3-1. Le Sénégal est déjà qualifié pour le prochain tour. On va débriefer ça dans quelques instants avec tous nos amis ici présents. Vous signalez que Jason Lindor et Léo réalisent au bout du foot de ce soir. Et autour de la table, j'ai des amis justement. Tous les consultants sont réunis ce soir pour parler foot, pour parler Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition du nom. Je vais commencer par Quentin. Salut Quentin.
Salut Malik.
Ça va bien?
Ça va super et toi?
Ça va super bien. Alfred, bien le bonsoir.
Merci, bonsoir à tout le monde.
Chakenza, ça va? Dans le micro s'il te plaît, ce
ça
sera
va,
beaucoup mieux.
Tu vas bien Malik?
Écoute, bienvenue à toi. On va remercier aussi la présence de notre ami Amadou. Salut Amadou.
Salut, ça va?
Toi, je sais que ça va bien. Hein ça, ça on va, te voit arborer le maillot du Sénégal et ça, tout ça.
Ça va bon. C'est vrai que je suis un peu gourmand, je voulais plus de buts, mais bon, faut.
Non, mais il faut pas tout marquer maintenant.
Faut être quand même correct, faut laisser pour les autres.
N'est-ce pas? Salut Ibrahima.
Salut à tous.
Dans le micro, s'il te plaît.
Salut à tous.
Voilà, c'est beaucoup mieux, les amis. On a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, hein, à l'occasion justement de cette journée de la CAN. Beaucoup de rebondissements avec notamment la qualification du pays qu'on appelle le Cap Vert, hein, qui a défait aujourd'hui même sur le score de 3-0 justement l'équipe du Mozambique. Hein. Et l'équipe du Mozambique, je crois qu'il y a une actualité là justement au niveau du Mozambique, non?
Non, c'est au niveau de la Tanzanie.
C'est plutôt de la Tanzanie justement qui a remercié son sélectionneur avant même la fin de la compétition.
C'est ça. Algérien, il me semble.
Ouais, mais
pour les propos qu'il a tenus.
Son nom. Mais en tout cas, ça va chauffer, hein, n'est-ce pas? Cette CAN qui débute, si j'ose dire, à peine, connaît déjà beaucoup de soubresauts. On va tout de suite, les amis, dérouler avec le sommaire. Au sommaire donc de votre émission Au bout du foot de ce 19 janvier, 30 secondes chrono. Que retenir de l'opposition Sénégal-Cameroun? Le débrief des oppositions Cameroun-Sénégal-Cap-Vert-Mozambique dans un instant. Également retour sur la journée d'hier, Côte d'Ivoire 0, Nigeria 1. Et si les éléphants de Côte d'Ivoire étaient tout simplement en surpoids? On pose la question. La chronique, tout le sucre de la CAN avec notre correspondant depuis Abidjan, Mousse. Retour également sur les oppositions d'hier, jeudi 18 janvier. Égypte 2, Ghana 2. Où est passé Mo Salah? Guinée équatoriale 4, Guinée-Bissau 2. Le triplé historique de Nsou, ex-capitaine de l'équipe Espoir d'Espagne. La question au bout du foot, le Maroc peut-il encore échapper au regard? Et puis, quels sont vos pronostics pour le match de ce soir à 21h, donc Guinée face à la Gambie? Ainsi planté le menu d'Au bout du foot, Au bout du foot spécial Coupe d'Afrique des Nations. Ça commence à l'instant même avec le 30 secondes chrono. Les amis, que retenir de l'opposition Cameroun-Sénégal qui s'est soldée sur le score de 3-1 pour le Cameroun? Je vais commencer avec Chakenza.
Bon, vraiment, je pense que le Sénégal a été meilleur vraiment durant toute la partie.
Ils ont vraiment montré qu'ils avaient envie de gagner. Ils ont été meilleurs sur tous les compartiments de jeu. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Kalidou Koulibaly en tant que leader vraiment, qui gagnait ses duels, qui mettait de l'impact, qui donnait aussi beaucoup d'assurance à ses partenaires au niveau du milieu et tout ça. Et avec un Sadio Mané vraiment qui a été rayonnant, qui a illuminé toute la partie. Je suis vraiment fier aujourd'hui d'avoir regardé un beau match.
30 secondes chrono pour notre ami Alfred. Que retenir de l'opposition Sénégal-Cameroun ?
À titre personnel, la suprématie des titres gagnés par le Cameroun ne confirme pas le statut du Cameroun. Le Sénégal a montré que depuis son arrivée au dernier, à la dernière CAN qu'elle a gagnée aujourd'hui, elle représente une grande nation de football. Tout au long des 90 minutes, le Sénégal a démontré de quoi qu'il était capable. Sur tous les plans, au niveau de la défense, au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, on a vu Ismaïla Sarr qui a montré qu'à tout moment, il pouvait surgir. Il y a eu aussi Sadio Mané qui a fait valoir, ma foi, sa petite expérience. Et voilà, donc aujourd'hui, il faut être fier de ce que le Cameroun a le Sénégal a produit.
Merci Alfred. 30 secondes chrono pour toi, Quentin. Qu'est-ce que, justement, tu as retenu de cette opposition Sénégal-Cameroun ?
Selon moi, je pense qu'on doit retenir, c'est qu'on voit que le Cameroun est... Et en dessous, on voit une équipe qui a du mal, qui a été presque coupée en deux au bout de 30 minutes de jeu. Et donc, c'est limite logique cette défaite. L'autre point à retenir, c'est que c'est Sadio Mané qui lance sa canne avec un joli but qui permet aux Sénégalais de l'emporter plus facilement. Donc, il faudra faire attention à cette équipe du Sénégal et le Cameroun qui est presque déjà éliminé. Donc,
T'as dit presque, hein. Et puis attention presque. Derrière, on va faire les calculs dans quelques instants parce qu'aujourd'hui, le Cameroun ne dispose d'un seul point, on est bien d'accord, hein. Un point obtenu dans la première rencontre de ce groupe justement. Et aujourd'hui, avec cette défaite, 3-1 quand même, hein. Je pense que historiquement, je ne sais pas, Amadou, tu me diras, mais j'ai l'impression que c'est la première fois où le Sénégal justement arrive à se défaire d'une facilité...
À la CAN même, je ne sais même pas s'ils ont déjà battu.
Ouais, j'ai pas l'impression.
Ils ont déjà battu le Cameroun.
C'est une victoire historique.
Oui, ils ont déjà battu le Cameroun en phase de poule. Mais en phase d'élimination directe, le Cameroun avait toujours eu le dessus.
Alfred ?
Après, il faut retenir que le Sénégal, c'est trois phases. Il y a eu la phase des Bokandé, il y a la phase d'Aliou Diouf, et celle d'aujourd'hui.
Les Sadio Mané,
celle qu'on voit aujourd'hui, elle a encore deux CAN devant elle. C'est pas terminé.
Mais sans compter les jeunes qui arrivent derrière.
Donc déjà, voilà.
Parce qu'on a vu même au
niveau
des jeunes.
Il y a une très grande marge de progression.
Des jeunes et tout ça. Le football sénégalais est en train véritablement
et la discipline se voit. L'intégration est bien faite. Et les gens, ils se respectent. Ça joue au football. Il n'y a pas de triche.
Ouais. Ça gagne et ça joue bien en plus.
Il n'y a,
hein.
a pas de clan surtout. Parce que c'est les clans des fois qui peuvent plomber certaines équipes. Quand les joueurs ne veulent pas aller dans le sens, par exemple, du meilleur joueur de l'équipe. Et là,
donc,
on voit que tout le monde va dans le même sens.
On va dire que Sadio Mané, Enko fédère, hein, justement. Ouais. 30 secondes chrono. Tiens, tu gardes le micro, mon cher Amadou. Que retenir de l'opposition Sénégal-Cameroun ? On le signale, hein. 3-1 pour le Sénégal.
Déjà, je dirais, enfin, le Sénégal réussit quand même à se défaire d'une de ses bêtes noires, le Cameroun. Bon, dans un match, quand même, on voit je mettrais quand même le bémol que le Sénégal, quand même, il y a des moments, il faut qu'il tue le match. Et ils ont mis un peu de temps à se décanter et à la fin ça se joue à pas grand chose puisque le Cameroun a failli égaliser et après se rencontre le Sénégal met le troisième but.
Non, je suis pas trop d'accord avec toi mais bon, enfin c'est le Cameroun tout de même, hein. C'est pas non plus une équipe de pousseurs. Réaction justement par rapport à ce qu'a dit notre ami Amadou.
Non, c'est ça, c'est le Cameroun, c'est une équipe qui a l'expérience, qui a la mentalité de gagner même dans la difficulté. Donc je pense que 3-1, c'est déjà un très bon résultat pour le Sénégal.
Ouais, bien sûr, non, après on prend, hein, de toute façon ça...
Mais en plus, toi tu peux pas te cacher, hein, parce que t'as le maillot, t'as tout.
Mais à la fin, ça s'est joué à peu de choses, vous avez vu qu'à 2-1...
C'est vrai qu'ils se sont fait punir direct.
La tête qui va juste à côté du Cameroun.
Ouais, une coup
parce que sinon c'est de partout.
Mais les amis, cela dit, est-ce que le Cameroun est éliminé là, à l'heure où on parle ?
Pas encore.
Pas encore. Il faudrait qu'ils gagnent leur dernier match et que la Guinée aussi ne fasse pas.
Donc là, on sort les calculatrices là pour le coup. Côté camerounais. Donc dans une heure, un peu moins, même dans trois quarts d'heure, à peu près, on aura l'opposition Guinée contre la Gambie justement, sachant que la Guinée au premier match
a fait match nul contre le Cameroun.
Contre le Cameroun, un partout. Donc la Guinée a un point.
À 10 contre 11.
Donc la Guinée a un point. Et aujourd'hui, le Cameroun, avec cette défaite, a un goal à verrage de -2 déjà. Ouais. Donc il va falloir que la Guinée fasse au moins match nul.
Bah, ouais, match nul, ça, c'est déjà un bon résultat pour la suite.
Ne serait-ce que ça, ce sera un bon résultat.
Après,
il
faut voir au dernier match. Dernier match. Sûrement, le Sénégal fera tourner. Mais bon, je pense quand même, comme le Sénégal. Je pense que bon,
le Sénégal a deux bonnes équipes. Hein.
Mmh. Ouais. Il y a quand même, même s'il fait tourner, ouais, c'est vrai qu'il faut voir le dernier match. C'est pour ça que moi j'ai dit, moi je sens quand même la Gambie se qualifier. Mais après, on en reparlera plus tard.
Mais toi, je comprends pourquoi. Ouais. C'est parce que c'est le voisin du Sénégal.
Non, c'est le frère du Sénégal, Gambie.
Mon cher Ibrahima, 30 secondes chrono. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette opposition Sénégal Cameroun? On le note encore 3-1 pour le Sénégal.
Ce que je note moi personnellement, c'est l'impuissance des Camerounais, et notamment de leur sélectionneur Rigobert Song. On voit qu'il y a, on a ressenti aucun changement, il n'y a pas eu de changement durant le match, il n'y a aucune prise de risque. Tactiquement, on ne sait pas quel jeu le Cameroun veut proposer. Donc moi, ce que je retiens de ce match-là, oui, c'est surtout, je ne vais pas dire l'incompétence, mais on sent qu'il a un peu perdu le coach camerounais, et ça se ressent à travers ses joueurs. Notamment au moment où Olivier Ntcham fait la passe décisive pour Castelletto, à un moment donné, il fait un signe chute. Je sais qu'il était sur le banc au début du match, donc peut-être que ça s'adressait au coach, et je pense que ce sera sa dernière compétition sur le banc des joueurs camerounais.
C'est pas des réactions à voir. Ouais,
c'est sûr que c'est pas des réactions à voir, et on sent que l'ambiance...
Ça montre l'ambiance. Hein.
Ça montre l'ambiance au sein du groupe. Mm-hmm. Avec d'ailleurs Onana qui est arrivé
à
4h du matin.
Moi, je rendrai ses coéquipiers.
Qui a été très mauvais
ce soir. Non mais les amis,
franchement,
c'est pas des bonnes conditions pour mettre le groupe bien. Voilà. Parce qu'en fait, on sait tous, hein, dans une équipe comme ça, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de leadership. T'arrives à 4h du matin à rejoindre tes coéquipiers. Pourquoi est-ce que lui, il a ce privilège et pas nous?
C'est ça.
Et Ibrahima, tu l'as évoqué justement, tu as parlé de la... peut-être l'incompétence du sélectionneur, mais au-delà de cette incompétence potentielle, est-ce que tout simplement cette équipe ne manque pas tout simplement de qualité, de talent, mon cher Alfred?
À moi personnellement, à vue d'œil, de ce que moi je regarde, le Cameroun n'a pas d'attaquant décisionnaire. Vous comprenez? À un certain moment donné,
parce que là, il y a Choupo-Moting qui est resté
en
Allemagne.
C'est ça qu'on attend.
Et il y a Aboubakar qui est blessé.
Voilà.
C'est
des attaquants comme ça qu'on attend. À un certain moment donné, quelqu'un qui prend le risque. Lorsqu'il obtient une bonne balle en surface de réparation, qui peut marquer un but. Mais là, les trois actions qu'ils ont obtenues, c'est passé à côté. Donc déjà, il n'y a rien.
Vous manque, tout est dépeuplé.
Et puis même le leader d'attaque qu'on aurait pu penser, qui est Kartoko Ekambi, qui aurait pu remplacer, c'est l'attaquant avec le plus d'expérience dans cette équipe, n'a même pas joué une minute ce soir. Donc c'est une question à se poser aussi. Pourquoi il a été mis sur le banc alors que...
Cela dit, il a fait un mauvais match.
Il a fait un mauvais match, mais c'est un joueur qui il peut marquer son but, même quand le Cameroun va mal, même quand lui va mal. Offensivement, on n'a pas vu grand-chose. On voit que la tête, à la dernière minute, ils se font punir direct après, alors que s'ils égalisent, c'est une toute compétition qui démarre pour eux.
C'est la belle performance du capitaine, c'est tout. Sinon, le Cameroun n'a pas fait...
Est-ce que vous avez des espoirs justement pour la qualification du Cameroun, les amis, Chakadza?
Oui, c'est possible.
Mathématiquement, tout est encore possible. Hein.
Ouais, après, c'est le football. Chaque match a sa réalité, c'est possible. Si le Cameroun vraiment arrive à décocher un résultat face à la Gambie, si vraiment il change un peu l'attitude de jeu et le sélectionneur vraiment qui prend un peu de risque, je pense que vraiment il est en mesure aussi de remonter le moral vraiment de ses poulains et tout ça.
Avec les chutes qu'on a vues là, à l'écran là.
Non, mais à un moment donné, dans un vestiaire, ça ne se discute pas. C'est l'entraîneur vraiment, c'est lui qui est le leader du vestiaire, c'est lui vraiment qui est censé donner la directive à suivre. Si l'entraîneur n'est pas écouté, c'est qu'il y a un problème au sein du vestiaire. Après, Ibrahima...
Mais moi, je veux te dire une chose, hein. Quand tu sens que ton boss n'a pas forcément les compétences, au bout d'un moment, je veux dire. Ça se voit. Et j'ai l'impression que les joueurs camerounais se disent que le coach lui-même, il n'a rien à nous dire, d'une certaine façon. Quand bien même, c'est vrai qu'on lui doit du respect et tout ce qui va avec, mais on enchaîne des contre-performances qui peut-être sont liées à ses choix, ne serait-ce que ses choix tactiques et ses choix d'homme.
Sa légitimité aussi a pu être remise en cause avec la gestion du chaos Nana. Il y avait eu des problèmes après le mondial. On sait que c'est des gens plus hauts sont intervenus. Et je pense qu'au vu d'un groupe, quand un coach ne se fait pas respecter comme ça, forcément ça joue. L'équipe, enfin le discours passe moins bien. Et là, ça se voit. En fait, il n'y a pas d'idée de jeu. Les joueurs, il y a une limite, on a des conflits entre eux quand on voit le chute de Ntcham. Faut voir après cette CAN. Mais là, je pense que si le Cameroun se qualifie par miracle, ça sera déjà une bonne chose, et si il ne se qualifie pas, ce sera le temps d'ouvrir une nouvelle page peut-être avec un nouveau sélectionneur.
On le rappelle hein, pour celles et ceux qui nous prennent en marche, hein, le Cameroun justement a été défait ce soir même 3-1 par le Sénégal qui est d'ores et déjà qualifié. Premier but inscrit dès la 16e minute par le sociétaire justement de Marseille, Ismaïl Assar. Diallo à la 71e minute, Mané à 90 minutes, hein, au-delà même du temps réglementaire. Et puis la réduction du score côté camerounais intervenue par Castelletto à la 83e minute de jeu. Donc Sénégal 3, Cameroun 1. Ça faisait longtemps, on le disait, hein, les amis, que l'équipe camerounaise n'avait pas défait cette équipe. L'équipe sénégalaise plutôt n'avait pas défait cette équipe camerounaise. Hein, tu vois, même le lapsus même est révélateur encore une fois. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est une victoire historique, hein, mon cher Alfred, pour cette équipe sénégalaise. Et qui désormais fait. C'est vrai que le Sénégal faisait partie des favoris. Mais avec cette victoire ce soir, il y a un capital confiance qui est décuplé. On est bien d'accord.
La confiance, elle est installée. Après, comme je vous ai dit, le Sénégal est en train d'écrire une histoire. Cette histoire, elle fait partie des grandes nations du football aujourd'hui. Le passé montre que le Sénégal a eu de grands footballeurs professionnels. C'est ça qui compte aujourd'hui. Donc, c'est une continuité. Donc, cette continuité, c'est des jeunes. Donc, ces jeunes, ils sont suivis de près. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas lâcher les choses. Donc, pour moi, je pense que pour l'instant, sur le continent africain, il faut beaucoup compter sur le Sénégal.
Donc, il y a le Sénégal, il y a le Maroc. Hein, c'est des potentiels finalistes hein, aujourd'hui. Hein.
Deux favoris.
D'ailleurs ouais, je ne sais même pas. Hein, quand on fait les calendriers croisés, est-ce qu'il y a des chances qu'ils se croisent avant la finale en fait, si tant est qu'ils arrivent au bout.
J'ai pas tous les.
Amadou.
Enfin, après, c'est un commentateur que j'ai entendu dire ça hier. Mm-hmm. J'ai pas toutes les bases. Enfin, je sais pas trop. Enfin, on verra à la suite de la compétition. Mais à ce qui paraît, en gros, si les deux ils terminent premier de leur groupe, ils pourront se retrouver en finale.
Mm-hmm.
C'est-à-dire sûrement pas avant. Mais après, c'est à voir.
Après, ah, mais ouais. Ça ferait une belle finale quand même.
Ça ferait une vraie finale.
Sénégal-Cameroun, hein, pour les amoureux de football. Ouais,
les deux meilleures équipes africaines hein depuis ouais ces dernières années.
Mais je pense que le Maroc. En fait, je vois des équipes qui peuvent battre le Maroc. Mais le Maroc contre le Sénégal, j'ai l'impression que le Maroc il pourrait s'en sortir. Parce qu'il aime bien comme ça faire le dos rond.
C'est ça.
Surtout que le Maroc n'a pas forcé hein, ouais, déjà. Hein. Il y a une vraie économie des forces. Hein. Le Maroc n'a pas forcé avant-hier. Hein. Ouais, ça a géré le match. Ouais. Ça connaît bien l'environnement, hein, notamment à travers son coach, son sélectionneur Henri Gragui. Hein. C'est un sélectionneur qui a beaucoup bourlingué justement à travers des clubs au niveau donc, du Maroc, qui connaît très bien l'environnement au niveau de l'Afrique, le climat, quoi, l'environnement de façon générale à travers le club qu'il a entraîné jadis. Aujourd'hui, il met cette expérience justement au service de cette équipe marocaine qui, ma foi, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'aller le plus loin possible. Les amis, on va rester encore sur cette opposition qu'on a vécue il y a quelques instants déjà. Quelles sont les satisfactions côté sénégalais, si vous devez en sortir comme ça quelques-uns, Quentin ?
Je pense que la satisfaction je pense générale de cette équipe, c'est qu'on sent qu'il y a un vrai groupe, qu'il y a des joueurs d'expérience comme Koulibaly, Mané, qui vont permettre d'encadrer les petits jeunes comme Matatsar ou même Lamine Camara. Et je pense du moment que tu as un groupe soudé dans une compétition comme ça, c'est le plus important et tu as beaucoup plus de chances d'aller loin dans ce genre de compétition. On l'avait vu avec le Maroc à la Coupe du Monde, à la dernière Coupe du Monde, où on voyait un groupe soudé prêt à limite donner sa vie sur le terrain. Donc je pense que ce sera l'une des forces du Sénégal durant cette compétition.
Même question pour toi, mon cher Alfred.
L'encadrement, le collectif, la discipline fait la fierté du Cameroun et du Sénégal aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut rien leur reprocher. Il y a eu quelques faiblesses vers la fin, mais il faut reconnaître que le Sénégal est en bonne voie.
Mm-hmm. Chekenza ?
Oui, vraiment, le collectif, vraiment, c'est un atout. C'est un atout au football parce que le football, il se joue à 11. Donc du coup, vraiment, avec le Sénégal, on sent que vraiment tous les joueurs sont là-dedans. C'est-à-dire, on a comme l'impression que tous les joueurs sont concernés, même ceux du banc. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le coaching d'Aliou Cissé. Vraiment, il fait entrer Idrissa Gueye,
qui fait une passe D. Hein.
Oui, qui est un taulier de la sélection, qui rentre et qui est décisif. Donc ça montre que même étant sur le banc, il peut apporter cette dernière touche. Et ça, vraiment, il a besoin de ce groupe-là pour aller loin.
Parce que moi, j'ai l'impression même qu'au-delà des joueurs, j'ai l'impression que Aliou Cissé même a progressé aussi en tant que sélectionneur.
Oui, bien
sûr. En tant qu'entraîneur. Parce que Aliou Cissé même de la Coupe du Monde récente, où il y avait beaucoup de balbutiements, beaucoup d'hésitations, ou même de la précédente Coupe du Monde où il faisait rentrer des joueurs sur des phases arrêtées type corner et tout ça. Ouais. Je pense que c'est Aliou Cissé là a beaucoup appris aujourd'hui. Il a véritablement progressé aussi Aliou Cissé. Ouais. Et je pense que son effectif le ressent.
Il a acquis de la maturité. Oui. Il faut reconnaître qu'il a de l'espérance qu'aujourd'hui, on peut l'attribuer une très bonne note sur le plan africain en tant qu'entraîneur. S'il y a eu du progrès, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce que si il n'avait pas ce résultat-là avec le Sénégal, il serait déjà parti.
Naturellement.
Que, voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein. On ne laisse pas beaucoup travailler après, les sélectionneurs.
Après, la nature,
la preuve hein, avec l'entraîneur algérien qui vient de se faire déguerpir.
La nature du Sénégalais lui-même est pacifique. C'est, le Sénégal, c'est des gens tolérants qui savent écouter. Voilà. Donc ce n'est pas des nations où à chaque fois il y a des polémiques par-ci, par-là, il y a des égos. Non. Vous saviez, il y a une ligne à suivre, vous la suivez et vous avancez. Mm-hmm. Moi, pour moi, c'est ce que je vois.
Il y a une forme de discipline hein, voilà. Hein, qui est
assise comme ça. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, parce que ce qu'il dit...
Ils sont différents justement de toi, Chakenza.
Bah, ça c'est vrai ce qu'il dit parce que lui, le Sénégalais de base, c'est un bon élève vraiment qui est un peu discipliné. Parce que là même, quand tu regardes vraiment, parce qu'Aliou Cissé, d'abord la CAN 2017, c'est une CAN un peu mitigée. Le Sénégal, où ils étaient attendus, 2017, ils sortent en quart de finale face à cette même équipe du Cameroun. Ah oui. Et après, vraiment, en 2019, là vraiment, et c'est l'année vraiment de la montée en puissance de son groupe, où ils font une finale, où ils ont été vraiment les meilleurs. Mais après, vraiment, par un coup de chance, vraiment, l'Algérie les prend la coupe. Et en 2022, c'est l'année de la consécration, où malgré les phases de poule vraiment qui n'étaient pas vraiment rassurantes, mais il a réussi à donner la confiance à son groupe. C'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de nations africaines. Il faut un entraîneur vraiment qui a le charisme, vraiment, qui sait aussi prendre les choses en main. Par moments, il faut cet entraîneur-là vraiment qui sache aussi mettre aussi les anciens sur le banc. On a remarqué avec Dissa Ganagay. Aujourd'hui, ben, il n'est pas titulaire. Peut-être que Dissa Ganagay, c'est un vécu en sélection. C'est pas mal d'années d'expérience, c'est pas mal d'années de CAN.
Mais Ganagay a l'humilité aussi de constater qu'il n'est plus le Ganagay de jadis, hein, justement, qui était capable d'avaler des kilomètres. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont là, bien présents, comme Gay, qu'on a vu, le sociétaire de l'Olympique de Marseille, qui a avalé beaucoup, beaucoup de kilomètres et qui a fait le job, qui a fait le taf. Mais il y a un absent, justement, le sociétaire de Chelsea FC. Notre ami Jackson Ibrahima, apparemment, j'ai pas l'impression qu'il rentre dans les plans de notre ami Aliou Cissé. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, je pense qu'il y avait deux attaquants. Il y a Habib Diallo quand même, qui aujourd'hui joue en Arabie Saoudite. Sincèrement, je sais pas quelles sont ses statistiques là-bas, mais
il a pas beaucoup, je crois.
Il a marqué zéro but, je crois.
Ah ouais. Début de... Mais je sais qu'il avait fait une très bonne saison à Strasbourg.
Mais quid de Jackson pour le coup ?
Et faut faire un choix à un moment donné. Et visiblement, Habib Diallo a l'air d'être plus efficace que Nicolas Jackson. Sur la pointe de l'attaque sénégalaise. Maintenant, on voit que quand Jackson rentre en jeu, c'est pas mauvais ce qu'il propose et c'est un choix à faire, sincèrement.
Non, c'est l'un ou l'autre. C'est un choix de riche, mon cher Amadou. Ouais.
Le dernier match, il avait joué quand même, Jackson.
Oui, il était rentré.
Non, il est rentré.
Il n'est pas titulaire. Alors qu'on part du principe que le sociétaire de Chelsea, qui est quand même titulaire hein, sur les derniers matchs avec Chelsea, on se dit forcément, il arrive en sélection, il va être titulaire. Mais là, au niveau de la Teranga, en tout cas, dans les choix d'Aliou Cissé, ce n'est pas le cas. Amadou, qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, il me semble, pour moi, de base, l'avant-centre de base du Sénégal, normalement, ça devrait être Boulaïdia. Maintenant, après, Boulaïdia a été blessé. Bon, il fait quoi ? J'ai vu que sur le dernier match, il faisait confiance à Habib Diallo, qui avait fait un gros match. Bon, ça va dire c'était un match amical, mais contre le Brésil. Qui avait fait un gros match contre le Brésil, c'est pas rien. Mais j'ai l'impression qu'il.
C'est pas le même profil.
Après, je sais pas si lui aussi, est-ce qu'il a pas des affinités avec d'autres joueurs ? Je sais pas.
Après, il y a un truc aussi, c'est que le Sénégal est préparé certainement pour aller le plus loin possible.
Ouais.
Hein, pour aller le plus loin possible. Donc, on verra, il y a les temps de jeu, il fallait se qualifier, il y aura certainement des cartons, des blessés, on verra peut-être.
Après, le troisième match, ils vont faire tourner sûrement contre la Guinée. Sûrement, Nicolas Jackson.
C'est là où je pense que le Cameroun, quand même, a des soucis à se faire.
En plus.
C'est là où je pense que.
Non, la Guinée aussi.
Le Cameroun, c'est. Le Cameroun reste une grande nation. Donc, vaut mieux éliminer le Cameroun maintenant que de la faire progresser.
Ouais, voilà, c'est ça.
Parce qu'ils vont te remporter cette Coupe d'Afrique à la con rapidement.
Ah, bien sûr.
Là, pour le coup, j'ai des doutes. Parce que là, il n'y a pas de Choupo-Moting. Il n'y a pas de Vincent Aboubakar.
Le Cameroun, je suis un tir.
Franchement, gagner une Coupe sans attaquant.
Sur un corner, ils vont gagner comme ça, vite fait.
Comme disait quelqu'un, comme disait j'entendais.
Vous les éliminer maintenant.
J'entendais un youtubeur qui disait le Cameroun, ils peuvent.
Je vais demander à Jason de préparer la virgule.
sélectionneur, il peut sélectionner 20 personnes dans la rue, 20 Camerounais, il peut gagner la CAN avec ça. Donc, il faut toujours se méfier du Cameroun. Voilà,
ça se joue beaucoup au mental,
s'il sort maintenant, c'est mieux.
Voilà.
S'il sort maintenant, c'est mieux.
Ouais, c'est une manière d'enlever un concurrent direct.
Voilà, c'est un poids.
C'est pour ça que je parlais de leur mettre un score.
D'où le match qui arrive dans un peu plus de 30 minutes, hein. Il est 20h27 sur mon Paris FM,
un
gros match en Guinée face justement à la Gambie. Amadou, hein, il fait un pronostic rapide déjà. Ouais. Pour lui, la Gambie va sortir justement victorieux de cette confrontation. J'ai des gros doutes là-dessus.
On
prend les paris si vous voulez.
On va faire un tour de table rapide justement. Ton pronostic Guinée-Gambie. Non, mais Guinée-Gambie, on va faire un pronostic rapide. Parce qu'on a un sommaire assez riche.
Ouais. Moi, je vois un 2-0 pour la Guinée. Parce que là, vraiment, l'équipe de Guinée, ils ont mis le Cameroun en difficulté.
2-0 pour la Guinée, on ne va pas argumenter forcément. 2-0 pour la Guinée.
La Guinée peut prétendre. Parce que l'équipe de Kabadiara, elle est pas mal.
Elle est pas mal. Combien tu vois
2-0.
2-0 aussi. Ouais. Quentin ?
Moi, je vois bien 3-1 pour la Guinée. Il y a une bonne équipe. Avec Bayo en pointe, ça peut marquer.
Non, mais décidément. Ibrahima ?
Je pense que les Guinéens laisseront aucune chose aux Gambiens. Et je vois la Guinée gagner par au moins 2 buts d'écart.
Et toi, Amadou ?
Bah moi, allez, on va dire, on a entendu du 3, je dirais 3-2 pour la Gambie.
3-2 pour la Gambie. Ah, ouais. Oh là là, un match prolifique. Comme depuis le début de cette CAN, on a beaucoup de buts.
0-0.
Il n'y a eu aucun 0-0. En effet, justement, c'est une CAN qui est assez prolifique. Avec le concours de Jason, les amis, on va basculer dans le match de cet après-midi. On parlait de buts, hein, les amis, 3-0 justement pour le Cap-Vert cet après-midi face à l'équipe de Mozambique. Hein, bébé justement à la 32e minute, ça fait certainement sourire notre ami Maïva justement qui a la captation des images aujourd'hui. Mendes à la 51e et Pina à la 69e, 3 pour le Cap-Vert, 0 pour l'équipe du Mozambique. Quels enseignements avez-vous tirés, les amis, Alfred ?
Honnêtement, la Mozambique, elle est certes athlétique. Mais bon, elle joue très bien, mais je pensais que le Cap-Vert était un peu déçu quand même.
Non, mais avec le 2-2 face à l'Égypte, on s'est dit quand même que le Mozambique...
Oui, ça c'est l'espoir qui a fait rêver les gens, mais sinon, je dis une chose, en début de compétition, faut montrer comme quoi tu as fait une préparation, que tu peux résister. Mais voilà, vers la fin, je pense que voilà, c'est Cap-Vert qui...
Mais le truc, c'est que quand tu regardes les stats, en fait, tu as 52% quand même de possession pour le Mozambique.
Oui,
t'as 422 passes contre 420. T'as 9 tirs pour le 11 tirs pour le Cap-Vert contre 9 pour le Mozambique. T'as 5 tirs cadrés du côté cap-verdien contre 2 côté mozambicain. À la fin, ça se solde par un 3-0 avec notamment un superbe coup franc de notre ami Bébé depuis 45 mètres quand même de différence, hein.
Un coup franc un peu à la Juninho.
Oui.
Après, pour revenir sur le Cap-Vert, c'est peut-être la surprise de cette compétition. Ils ont réussi à battre le Ghana. Bon, on sait que le Ghana avait une équipe, c'était pas l'équipe type sur le terrain, mais c'est quand même le résultat à aller chercher 2-1. Donc, c'était une victoire, je pense, assez logique. Ils ont déroulé 3-0. La différence de niveau, elle s'est fait sentir sur le terrain. Qualifié pour les huitièmes de finale, je pense que c'est une équipe qui peut s'essouffler sur le long terme. Mais à voir, parce que c'est ce genre d'équipe, je pense que les gros n'aimeront pas choper en 8e.
Ouais, ça peut être très embêtant, voire même humiliant, hein, parce que le Cap-Vert, c'est pas une nation de foot reconnue en tant que telle. Donc se faire battre par cette équipe là, ça peut ressembler à une forme d'humiliation comme ça. Hein. Mais Amadou,
attention, parce que ils sont pas à prendre à la légère, parce qu'à la dernière CAN, ils sont fait éliminer en 8e de finale par le Sénégal. Donc si ça aurait été peut-être une autre nation à la place.
Quelle est la force de cette équipe capverdienne, justement, Ibrahima ?
Je pense que c'est le collectif. Hein. C'est ce que j'ai constaté, moi, personnellement, en regardant le match face au Ghana. J'ai pas eu forcément l'occasion de voir le match face au Mozambique cet après-midi. Mais je sais que collectivement, c'était plutôt solide et qu'ils faisaient plutôt bien tourner le ballon. Et que quand ils avaient une occasion, ils la mettaient au fond. Ça aussi, ils sont très efficaces.
Donc, collectif et beaucoup d'adresse.
T'as Duarte et Semedo et puis Bébé qui sont pas mal.
Voilà. Ah, mais joli coup franc quand même. Hein. J'invite nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu le but. Hein. Maïva, t'aimes pas le foot, mais va regarder ce joli bijou de Bébé, justement. Le joueur, il s'appelle Bébé, hein, pour de vrai.
Ouais.
Il s'appelle Bébé.
Ouais,
va voir son. Franchement, c'est un joli bébé.
Voilà, joli
il nous
bébé.
A pas un joli bébé. Chekenza, le Cap-Vert, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, vraiment, ce qui me retient, c'est l'entraîneur du Cap-Vert, c'est-à-dire déjà avoir un groupe ou dans lequel vraiment il n'y a pas de, de star vraiment qui se dégage en tant que tel, mais construit vraiment un collectif.
Ah, bébé est en train de se dégager en tout cas.
Construit vraiment un collectif. Et quand tu regardes cette équipe de KV jouer, tu as comme l'impression que c'est une équipe vraiment qui est réaliste. Ils n'ont pas besoin d'avoir 50 occasions. Avec les stats, tout est là vraiment. Parce qu'on regarde que vraiment la Mozambique a été mieux. Et a été mieux que le KV dans l'utilisation du ballon et tout ça, dans l'aspect tactique. Mais à chaque occasion, c'est un but. Donc ça montre vraiment qu'il y a un travail vraiment qui a abattu tout ça dans l'ombre. Et moi, s'il y a une personne à féliciter, moi, j'aimerais vraiment féliciter l'entraîneur. Parce que rarement dans le football africain, les entraîneurs sont félicités. Surtout avec ce genre d'équipe. Et on sent vraiment qu'il y a un travail qui est là, tout organisé. Il y a un collectif qui est mis en place. Il y a des séances vidéo. Il y a des choses vraiment qui sont mises en place pour que le groupe progresse. Vraiment, oui. Là, on parlait de la dernière CAN, ils ont fait la 8e finale. Cette CAN, moi, je le vois au moins aller en quart de finale. Et c'est comme ça, petit à petit, ils vont gravir l'échelon. Et pourquoi pas, on serait surpris. Une CAN voit le Cap Vert vraiment remporter le sac. Et moi, pour vraiment, cette équipe, je la compte parmi les outsiders de cette CAN.
L'entraîneur dont il fait référence, justement, c'est Pedro, hein, Pedro Brito. Un entraîneur qu'on avait vu à la dernière CAN déjà. Hein. Si mes souvenirs sont bons.
Le Cap Vert
c'est quelqu'un qui emmagasine aussi en expérience.
Le Cap Vert est une petite nation, mais produit aussi beaucoup de jeunes footballeurs au Portugal. Hein. Faut en tenir compte comme Nani, comme ça, qui sont capverdiens. Donc elle a une petite histoire avec le Portugal.
Mais c'est vraiment ce genre d'équipe.
Ouais, Renato Sanchez, hein. Il me semble qu'il est d'origine capverdienne.
C'est vraiment ce genre d'équipe à laquelle il va falloir faire attention, parce que tu le disais, Chikenza. Une action, ça peut faire but. Alors même s'ils n'ont pas le ballon, voilà, c'est ça peut 1-0, 2-0. Après, ça met le but. Faudra faire vraiment très attention à eux.
Mais c'est même pas c'est une équipe qui est joueuse en plus. Hein. C'est pas c'est ça, une équipe qui met le but. Hein, ouais. C'est une équipe qui est joueuse.
Ouais. C'est genre d'équipe qui, je pense vraiment, les grosses équipes n'aiment pas jouer contre ça parce que ils ont rien à perdre.
Ils vont faire
leur compétition. S'ils se qualifient, ils seront encore plus heureux. Mais là, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes. Je pense que l'objectif est déjà rempli. Une équipe qui n'a rien à perdre comme ça, ça peut toujours faire très mal.
Après aussi, l'entraîneur, il pourra faire vraiment tourner son équipe, reposer ses cadres. Parce que la CAN, sincèrement, c'est la phase de poule. Mais la CAN, elle débute vraiment à partir des huitièmes et finales.
C'est notre compétition.
Vraiment, à la phase d'élimination directe, on a comme l'impression qu'il y a des équipes.
Ce que tu dis, c'est intéressant, chacun de ça. Et c'est là où, justement, des équipes qui se sont révélées, mais en tout cas qui ont confirmé leur statut. Tel le Sénégal ce soir, bon, je pars du principe que le Maroc est déjà qualifié. C'est justement dans ces matchs à élimination directe où il va falloir être malgré tout concentré parce qu'on peut nous entraîner tout doucement les prolongations.
Le Nigeria, la dernière CAN qui avait fait 9 sur 9 et en 8e qui se fait éliminer par la Tunisie 1-0.
Tout à fait.
Le plus souvent, la CAN, les équipes vraiment qu'on a deux buts en fanfare au niveau des huitièmes, on a comme l'impression que le groupe est un peu fatigué. C'est-à-dire quoi? Parce que oui, sincèrement, il n'y a pas eu du repos et tout ça.
Surtout que sur place, il fait très chaud, immensément chaud. Les
conditions météorologiques, surtout, ne sont pas favorables pour vraiment cette CAN où il y a pas mal d'expatriés. La plupart des joueurs africains, ils jouent dans les championnats majeurs. À un moment donné, ça va jouer aussi. Mais je pense que vraiment, les entraîneurs, ils prendront vraiment toutes ces mesures en compte. Parce que oui, quand on est professionnel, on se doit vraiment d'anticiper les choses. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, il y a un groupe vraiment qui est assez lâche. Donc, au niveau du troisième match, ça peut passer. Comme tu as dit, le Maroc, oui, ils ont une profondeur du banc. Mais à un moment donné, des pays comme le Cap-Vert, qui n'ont pas une profondeur du banc, ça peut jouer en leur défaveur. C'est-à-dire, tu ne peux pas vraiment aligner une équipe bis comme celle qu'on a vue aujourd'hui. Et oui, à un moment donné, ça va être un problème. Soit vraiment, comme là, il a vraiment l'entraîneur, il a déjà les 6 points, il peut se permettre, c'est une largesse.
Merci, Cheikh Hamza. Il va falloir qu'on progresse, les amis. On va partir justement sur la journée d'hier. On a vu la Côte d'Ivoire justement être défaite sur son sol par l'équipe nigériane. Tu l'évoquais il y a quelques instants, mon cher Amadou. Et si les éléphants de Côte d'Ivoire étaient tout simplement en surpoids? Quentin, Côte d'Ivoire, Nigeria, 0-1. Et si les éléphants de Côte d'Ivoire étaient tout simplement en surpoids?
On a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a pas proposé grand-chose. On n'a pas vu beaucoup d'occasions. Le Nigeria, ils ont marqué le pénalty, ils ont fait leur match, tout en sachant que voilà, c'est le pays hôte, ils allaient avoir la pression à côté. Mais voilà, c'est vrai qu'on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui doit être bien au-dessus de ce niveau-là. Ils sont chez eux, ils ont vraiment un enfin limite leur honneur à défendre. Voilà, ils ont un devoir d'aller loin dans cette CAN. Quand on voit ce qui a été proposé hier, enfin il y a eu quelques occasions de frappe de loin et tout, mais jamais un véritable danger. Bah, on peut se poser des questions sur cette équipe à sa capacité à aller loin ou à vraiment rivaliser avec des grosses équipes comme le Nigeria.
Mon cher Alfred, qu'est-ce qui a manqué aux Ivoiriens hier?
Bah, tout à l'heure, Quentin vient de sortir un mot qui m'a un peu, quand même, je suis un peu étonné, parce que l'honneur, c'est quoi concrètement? Parce que la Côte d'Ivoire, même si elle doit défendre quelque chose, il faut être...
C'est la CAN à domicile, ils se doivent...
Je comprends bien ce que tu dis, Quentin, mais je dis une chose. Le match que le Nigeria jouait avant la Côte d'Ivoire, on montrait déjà que le Nigeria avait déjà un potentiel. La Côte d'Ivoire, elle est venue en tant que pays organisateur, elle n'a rien prouvé jusqu'à présent. Donc déjà, pour moi, voilà, face au Nigeria, je voyais déjà les lacunes de la Côte d'Ivoire, que ce soit... Vous retirez...
Non mais c'est vrai, tu l'avais évoqué même lors du premier match. Voilà,
pour moi, je pense, à mon avis, à titre personnel, je pense que les gens, ils ont caché beaucoup de choses aux Ivoiriens, parce que cette équipe, les joueurs qu'ils ont recrutés, tout, il y avait pas mal de blessés, et ça continue. Donc pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas en mesure d'aller loin. Même si le dernier match va être synonyme de victoire, ben, de façon honnête, elle n'a pas organisé cette coupe pour pouvoir arriver en demi-finale. Et pour moi, je ne parie pas que la Côte d'Ivoire pourra le dépasser les huitièmes de finale. Il faut être honnête.
Sur le papier, c'est son avis, et ça voilà. Se respecte. Et d'ailleurs, si on veut être honnête, et nous le sommes tous ici, hein, parce que c'est quand même au bout du foot, on va au bout, au fond des sujets. Mon cher Alfred l'avait évoqué, même avec la victoire face à l'équipe de Guinée-Bissau, il avait bien dit qu'effectivement, cette équipe ivoirienne n'avait rien démontré et que le but de Seko Fofana, qui était un exploit, individuel, était l'arbre, justement, qui cachait la forêt. Et je pense que, mon cher Cheikh Nza, tu finis, parce que c'est vrai que dans la première analyse d'Alfred, tu n'étais pas forcément d'accord, mais... Avec le match d'hier, je pense que tu es d'accord avec lui aujourd'hui. Cette équipe ivoirienne n'a pas forcément le niveau pour atteindre les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique, à moins qu'elle nous démontre le contraire.
Bah oui, vraiment, je suis du même avis qu'Alfred, mais moi j'aimerais un peu plus argumenter au fait. Aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire, je pense que vraiment, avec les joueurs qu'on a, on a le potentiel, mais tactiquement, on n'est pas mieux apte. Parce que quoi, on n'a pas un entraîneur vraiment qui arrive vraiment à faire cet assemblage-là.
Non, c'est l'entraîneur qui court sur le terrain.
Non, écoute...
Non, c'est une question.
Non, déjà, c'est pas l'entraîneur. Mais moi, je pense que quand on a un Lazare Mani qui est dans la fleur de l'âge vraiment, qui est un porteur de ballon, parce que moi, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire manque de créateurs. À la base, Seko Fofana, c'est pas quelqu'un qui doit endosser le rôle de numéro 10. Seko Fofana est censé jouer devant la défense, comme le faisait au Racing Club de Lens. Soit... Et à un moment donné, il va falloir sacrifier l'un de ces deux cadres au milieu de terrain, soit Kessier, soit Sangaré, mais le faire croire que oui, c'est à un moment donné, avec les deux matchs, vous n'avez pas le niveau présentement pour être titulaire en sélection, oui, comme le Sénégal a fait avec Idrissa Gana Gueye. Bien sûr.
Là, ça va être Kessier pour le coup.
Bah oui, moi, je suis pas vraiment dans la tête de Gassé.
Non, mais objectivement, c'est juste de l'objectivité.
Ouais, oui, objectivement, mais je suis pas dans la tête de Gassé. Ben moi, si ce serait été moi. Ben, j'aurais sacrifié les deux, oui, parce qu'à un moment donné...
Tu aurais sacrifié qui?
Ben, moi, j'aurais sacrifié les deux.
Les deux, c'est qui?
Que ce soit, j'aurais sacrifié Kessié Sangaré, et j'aurais dit...
Pour faire rentrer qui?
Je serais parti sur un système de 3-5-2. Déjà, ce système-là, j'aurais une défense vraiment à 3 avec un Kosono Odilo.
Attends, mais ça m'intéresse ce que tu dis. Oui? Une défense à 3, ça voudrait dire qu'il y aurait qui, justement?
Ben... Là, vraiment, si tu me permets, je peux développer. Je vais partir avec une défense, avec un Kosono Odilo, qui est titulaire aujourd'hui au niveau du Bayer Leverkusen. Pourtant, on connaît vraiment la vision de jeu de Xavi Alonso.
Mais l'environnement local, il est différent, mon cher. Et ça, tu le sais.
Certes, l'environnement local est différent, mais Kosono Odilo aujourd'hui, quand on parle vraiment en termes de défense, je te laisse continuer.
Donc, Kosono, ensuite.
Kosono Odilo aujourd'hui, ouais. au milieu.
Non, on parle de la défense.
Oui, de la défense.
Tu as parlé d'un 3.
Une défense à 3. Ouais, une
Donc
défense
les,
à 3, 3.
Les 3 derrière, il y a qui?
Kosono Odilo, Willy Boli et Evan Sindika à gauche.
Ensuite,
et à droite.
Au milieu?
Au milieu, j'aurais mis un Seko Fofana devant la défense et un Lazare Mani auprès de lui.
Ensuite.
Et à droite, j'aurais mis un Wilfried Tsengo. À gauche, j'aurais gardé Justin Konan, qui est très bon dans l'animation défensive.
Et les deux de devant?
Les deux de devant déjà. J'aurais mis vraiment, pour moi, mon choix personnel, j'aurais mis vraiment un Konaté Karim qui est dans la fleur de l'âge et tout, qui est très bon aussi dans la percussion et tout, qui peut jouer vraiment en profondeur.
Et le deuxième à côté de lui ?
Le deuxième à côté de lui, Jean-Philippe Crasso, il n'est pas à remettre en cause. Il a montré cette bonne chose, mais je pense que l'animation offensive ne lui permet pas vraiment d'éteindre toutes ses qualités. Ça aussi c'est un problème.
En tout cas, c'est ton avis, hein, et puis on va regarder ça de façon très attentive. Hein. Je crois que le prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette 34e édition de la CAN, c'est le lundi prochain. Ibrahima, ton sentiment face à la défaite justement de l'équipe ivoirienne, hein, 1-0 hier, hein, un pénalty d'ailleurs, hein, qui selon certains n'était pas un pénalty justifié malgré tout, mais bon, nous on va pas parler de l'arbitrage ici parce que c'est pas nos habitudes, c'est sifflé. Qu'est-ce que t'en penses justement de cette défaite ivoirienne à Ibrahima?
Bah déjà, je vais féliciter l'équipe nigérienne parce qu'elle a très bien joué le coup, hein. Elle a marqué un but sur pénalty, elle a su rester solide tout le reste du match après défensivement. À un certain moment, c'était pas facile, mais ils ont su rester solides. Donc, sincèrement, chapeau à eux, ils ont très bien joué le coup. Maintenant, pour revenir sur l'équipe de Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que c'était lent déjà, que ça manquait pas mal de rythme. À un certain moment, j'avais l'impression que l'équipe était divisée en deux. On avait les attaquants d'un côté et le milieu et la défense de l'autre. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Seko Fofana essayait de mettre du rythme de temps en temps, mais les autres ne suivaient pas. Et contrairement, par exemple, à l'équipe du Sénégal qu'on a vu jouer tout à l'heure, il y a un truc que j'ai remarqué en équipe de Côte d'Ivoire, c'est qu'on a du mal à passer le flambeau entre les plus jeunes et les plus anciens. Je ne sais pas comment Serge Aurier, aujourd'hui, il peut être titulaire de l'équipe. Ouais. Je n'ai pas compris, sincèrement. Et capitaine de la sélection, joueur comme Franck Kessié aussi, je ne sais pas comment il peut continuer à jouer. Enfin,
peut-être qu'avec la défaite d'hier, peut-être que ça va apporter des chamboulements.
Et en Côte d'Ivoire, il y a un réel souci avec ça. En tout cas, selon moi, il y a certains anciens qui sont plus au niveau, mais on continue toujours de les appeler et de les faire jouer titulaires en plus de ça. Je sais pas pourquoi, alors qu'on l'a vu tout à l'heure en équipe du Sénégal.
C'est la reconnaissance, c'est Sénégal. La reconnaissance.
Les Sénégalais ne sont pas...
Il y en a beaucoup qui ont gagné la CAN 2015, hein, qui sont encore
dedans. Je pense que les Sénégalais sont reconnaissants envers Idrissa Gueye. Pourtant, tout à l'heure, il était sur le banc et on a fait jouer Pape Gueye, Lamine Camara et Pape Sarr, et ils ont très bien joué.
Ça, c'est leur capacité.
Cher
Alfred.
Ce que Ibrahim vient de dire, c'est très important parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas pour la première fois qu'elle joue contre le Nigeria. Il y a eu plusieurs confrontations. Le Nigeria est venu dans le but de défendre. Elle savait qu'elle allait avoir une pression parce que c'était la Côte d'Ivoire en même temps. Elle sait comment les Ivoiriens fonctionnent. Mm-hmm. Mais les jeunes qui étaient face au Nigérien, le marquage de Diomandé sur Osimhen, c'était visible. Il pouvait pas maintenir ce gars.
Non, mais là, c'était un choix tactique aussi. C'est là où l'entraîneur nigérian, je pense qu'il a apporté un truc qui a bouleversé les défenseurs, voire même le milieu de terrain et les défenseurs ivoiriens. C'est que tous s'attendaient certainement à voir un Osimhen au centre justement de l'attaque des Verts et Blancs. Et en définitive, Osimhen a dézoné. Il s'est retrouvé sur le côté gauche de l'attaque nigériane et donc du côté droit de la défense ivoirienne. Et à partir de là, j'ai l'impression que toute la défense et le milieu de terrain étaient perdus, perturbés. Qui c'est qui allait marquer justement Osimhen? La question s'est posée et je pense qu'ils n'ont jamais pu trouver de solution. Mon cher Amadou.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais, enfin moi, peut-être hier je mettrais au crédit le Nigeria vu qu'ils ont été tenus en échec le premier match. Bon, ils ont eu sûrement aussi une réaction d'orgueil. On s'est dit bon, on n'a rien à perdre, on est à l'extérieur, donc voilà, on va jouer notre va-tout. Avec Osimhen qui a fait un gros match, qui a vraiment pesé sur la défense. Bah après ouais, c'est vrai que j'ai pas senti qu'il y avait de combinaisons entre le milieu, les attaquants. Je sais pas, les attaquants ils étaient livrés à eux-mêmes.
Zéro inspiration.
C'est comme ça qu'il est meilleur aussi.
Zéro inspiration hier dans tous les cas.
C'est frappe de loin. Ouais.
Ouais, c'est des éléphants qu'on a retrouvés qui étaient très 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 lourd, hein, tout simplement.
Très pauvre en proposition.
Et puis on espère, hein, ne serait-ce que pour la beauté de la compétition, on espère voir les éléphants justement aller au second tour, hein, face à la Guinée équatoriale. Mais en tout cas sur le contenu et sur ce qu'on a vu face au Nigeria, on a beaucoup 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 de réserves, à moins que justement les éléphants nous surprennent. On va continuer les amis à dérouler au bout du foot, hein. Cette fois-ci on va parler avec notre ami Moussa depuis Abidjan, mais après lui, on va évoquer aussi l'Égypte qui s'est retrouvée face au Ghana hier avec un score de parité 2-2. Où est passé Mohamed Salah, justement, qui est sorti qui est sorti pardon, sur blessure. Guinée équatoriale 4, Guinée-Bissau 1. Là aussi, il y a eu un triplé historique d'un certain Nsou, ex-capitaine de l'équipe Espoir de l'Espagne, hein, si je ne m'abuse. La question au bout du foot, le Maroc peut-il encore échapper au regard, hein, parce qu'on a l'impression que le Maroc veut se faire un peu discret comme ça et puis arriver tout doucement en finale pour remporter cette coupe. Mais est-ce que le Maroc peut continuer à se cacher? On va se poser la question et puis on va finir, on l'espère, on va aller au pas de course, les amis, avec Guinée face à la Gambie dans quelques minutes seulement. On enchaîne tout de suite avec la virgule. Moussa depuis Abidjan, c'est parti.
La deuxième journée des phases de poule de la CAN entamée ce jeudi 18 janvier s'est ouverte avec son lot de surprises. Le petit poussé, le Cap-Vert, crée la sensation en se qualifiant en premier pour le second tour grâce à ses deux victoires face au Ghana et au Mozambique. Dans ce groupe B, l'Égypte et le Ghana, qui à l'issue d'un match palpitant soldé 2-2, ont désormais leur destin en main pour la dernière journée avec un avantage pour les Pharaons. Dans la poule A, la Côte d'Ivoire, pays hôte, troisième du groupe, stoppé dans son élan par le Nigeria, devra aller chercher sa qualification avec ses tripes. Devant la non moins étonnante Guinée équatoriale, la première de ce groupe, où siège Emilio Nsoué, meilleur buteur du moment avec 3 réalisations. Les champions en titre, le Sénégal, le Burkina, le Mali, la Namibie et le Maroc, ont l'occasion de confirmer leurs bons résultats de la première journée, synonyme de qualification pour le second tour. En phase 2, respectivement, le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la RDC, revanchards après les faux pas de la première journée. Autant dire que cette deuxième journée sera déjà décisive et donnera une grande visibilité avant les troisièmes et la troisième journée sur les qualifiés potentiels. À l'évidence, il y a un nivellement des valeurs. À preuve, la victoire de la Namibie sur la Tunisie et les nombreux matchs nuls enregistrés. Ce tournoi est plus que jamais ouvert, que le meilleur gagne. C'était depuis Babi Big Mousse pour Mon Paris FM. À demain.
Merci Moussa depuis Abidjan. C'était la chronique Le Sucre de la CAN avec Moussa qu'on va retrouver prochainement. Retour à présent les amis hein, sur les oppositions d'hier. On va aller au pas de course. Hein. Égypte 2, Ghana 2. Qui c'est qui souhaite intervenir? On ne pourra pas tous intervenir là-dessus. Oui Ibrahima.
Je voulais souligner la très belle prestation de Mohamed Koudous hier qui a montré à ses coéquipiers qu'il devait compter sur lui parce que son absence lors du premier match... s'est fait ressentir et hier il a été très efficace, je voulais le féliciter.
Amadou ?
Ouais, bah moi, bon, comme j'avais dit la première fois que je suis venu ici, les joueurs à suivre, bon, je parlais d'Imran Ndiaye et d'ailleurs bah, Mohamed Koudous, que je disais qui sera une des futures étoiles montantes du football africain. Bon, sinon, ouais, on a vu que le Ghana, j'ai retenu que aussi le Ghana a fait un bon match mais n'a pas su garder le score.
Le Ghana a fait un bon match, a su être très réaliste, mais c'est quand même l'Égypte qui a eu le contrôle du match. Deux buts, enfin...
Je suis pas trop d'accord avec toi. Bah,
bon, j'ai regardé la première mi-temps du match, et là en plus je vois les stats. 58% de possession pour l'Égypte, seulement 6 frappes au but pour le Ghana. Ils ont su être réalistes et marquer leur but quand il fallait. Après je vois, il y a des joueurs qui n'ont pas été utilisés... André Ayou, Ernest Nyamba qui ne sont même pas rentrés. Je pense que ça aurait été des cartes intéressantes à jouer.
Alfred, rapidement.
Je partage l'avis de Quentin. Après, vous savez que le Ghana aussi reste une grande nation de football. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui tournent. Donc, pour moi, le Ghana a quand même assez de réserves pour pouvoir avancer. Donc, il faut compter avec le Ghana.
Ouais, concernant le Ghana, c'est un groupe jeune. C'est un groupe jeune, donc c'est normal. Quand on parle de Mohamed Koudous, il n'est qu'à sa deuxième CAN. Donc c'est avec le temps. C'est avec le temps. C'est... Là, c'est d'accord. Une phase.
Non, c'est la première, je crois, en plus. Hein.
Bon, si on veut, voir et puis première. Mais là, c'est
la Coupe du Monde.
C'est une phase d'apprentissage. C'est une phase d'apprentissage, donc c'est normal. Après, il y a pas mal de joueurs, vraiment, qui étaient des cadres, mais aujourd'hui, qui ne peuvent pas être prétendus titulaires. Et là, il a parlé d'André Ayou, mais André Ayou, cette saison même, il a peu de matchs joués. Donc, ça prouve vraiment qu'il n'est pas vraiment au top pour prétendre être titulaire. Moi, j'aime bien vraiment ce genre d'équipe où, à un moment donné, les anciens, ils savent vraiment céder la place aux jeunes. Bah, oui, parce qu'au football, il y a les statistiques aussi. Si tu n'es pas vraiment en bonne et due forme pour le pratiquer, à un moment donné, oui, il faut accepter.
il faut accepter vraiment d'être un leader dans le groupe. Il n'y a pas que sur le terrain qu'on peut être un leader, même en dehors du groupe, on peut essayer d'apporter son expérience.
N'est-ce pas ? C'est Chakenza, le défenseur central de Grigny, qui nous parle. Donc, croyez Chakenza sur parole. Les amis, justement, on va évoquer aussi le cas Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est vrai qu'on est simplement à deux matchs hein, dans cette compétition, en tout cas au niveau de l'équipe d'Égypte notamment. Où est passé Mohamed Salah ? On a l'impression que ce n'est pas le même Mohamed Salah qui est sorti sur blessure d'ailleurs hier. C'est pas le même Mohamed Salah qu'on connaît, qu'on voit à Liverpool. C'est quoi ? C'est la chaleur, c'est l'environnement, c'est les coéquipiers.
Je pense qu'il y a un peu de tout. C'est pas du tout le même climat, c'est pas du tout la même équipe. Donc un autre statut à affirmer avec un rôle donc plus de maître du jeu. C'est lui. Il a le destin de tout un pays à porter sur les épaules. Hier il se blesse malheureusement pour l'Égypte qui je pense va être mise en difficulté par cette blessure, mais je pense voilà c'est un tout. Ça là avec l'Égypte, moi j'ai jamais été vraiment convaincu. J'espère que ce sera pas trop grave la blessure parce que bon il mérite de faire une bonne canne. On a vu que son début de saison
on
est
nous parle d'une blessure au niveau des ischio-jambiers avec comment on appelle ça, des analyses complémentaires qui sont en voie d'être diffusées.
J'espère que ça ira
diffusé.
Pour lui. J'espère que ça ira pour lui parce que lui mérite de faire une bonne canne. Il fait un début de saison stratosphérique.
Mais je crois qu'on n'a pas la meilleure équipe d'Égypte non plus. Donc, j'ai beaucoup de réserves par rapport à cette sélection pour ce coup-ci.
Moi, je pense qu'il y a un petit handicap au niveau du climat. Je pense que ça, il est un peu fatigué par rapport à la chaleur. Maintenant, il faut reconnaître que bon, à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Donc, c'est ça qu'il faut voir un peu. Bon, pour l'instant, il faut attendre un peu. La blessure, peut-être, je ne sais pas, mais bon, pour moi, si.
Chakenza, ton avis là-dessus, rapidement, Mohamed Salah.
Mohamed Salah, vraiment, là, je vais prendre l'exemple, si Manuel Adebayor, même s'il n'est pas sur le plateau, il a dit que par moment, les équipes africaines ont la tendance qu'à dire qu'un joueur, quand il vient en sélection, il n'est pas. Mais ce n'est pas les mêmes conditions. Déjà, Mohamed Salah, à Liverpool, il n'a pas les mêmes coéquipiers qu'en Égypte. Donc, on ne peut pas lui demander le même exploit. Est-ce que tu vois ? Donc là, en termes de football, c'est même pas pareil. On ne peut pas comparer les contextes. Quand il vient en sélection, il se donne le meilleur de lui, mais il n'a pas ses coéquipiers. Mohamed Salah, en sélection, il n'a pas un Serge Gakpo qui lui fera vraiment des passes décisives. Il n'a pas un Thiago Alcantara. Il n'a pas vraiment les mêmes coéquipiers. Il n'a pas vraiment, je pourrais dire, comme on appelle le capitaine de Liverpool. Il n'a pas un Ederson, même s'il est parti. Il n'a pas ses coéquipiers. Il n'a pas un Luis Diaz, vraiment, qui fera tout le taf, qui lui mettra dans les conditions. C'est pareil, ce que tu vois. Derrière, il n'a pas cette assurance aussi. Il n'a pas ce Van Dijk vraiment avec ce jeu long, les appels en profondeur. Donc, Mohamed Salah, il a une palette de jeu très large. Mais avec l'Égypte, c'est différent parce qu'il n'est pas dans les conditions. Mais Mohamed Salah aussi, c'est pas un joueur aussi à lui seul vraiment qui pourra vraiment faire des exploits, comme on lui dit. À Liverpool, il a toujours été bien encadré. Même au niveau de la Roma, ça a toujours été comme ça. Mohamed Salah, pour briller, il faudrait qu'il ait des coéquipiers vraiment au top. Bah oui, on l'a vu à Chelsea, Mohamed Salah, vraiment, il est en dessous parce qu'il n'avait pas vraiment ses coéquipiers. Donc, c'est un joueur vraiment du collectif. Il faudrait vraiment qu'il soit au sein d'un collectif qui lui permet de briller. Donc, ce n'est pas le même contexte. Je ne peux pas vraiment en vouloir au joueur. Il essaie vraiment de faire le maximum parce que, qu'on le veuille ou pas, la canne dernière, il a envoyé son équipe en finale. Même s'il n'a pas été vraiment l'artisan majeur, mais déjà, Mohamed Salah dans le collectif, ça fait peur aux défenses adverses. Ça joue aussi un peu sur le mental. C'est-à-dire, Mohamed Salah dans une équipe, que tu le veuilles ou pas, tu sens vraiment qu'il y a un joueur à tout moment vraiment qui peut nous sortir vraiment une action. C'est-à-dire un feu follet, une action vraiment, soit un dribble, un but vraiment. Donc, c'est un peu ça.
Mon cher Amadou.
Moi, je dirais, bon, il a quand même une bonne équipe avec lui, parce qu'il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble dans les championnats d'Égypte. L'année dernière, on a bien vu qu'ils étaient en finale de la CAN et même en 2017. Bon, je pense qu'ils ne jouent pas avec des porteurs d'eau. Bon,
avec les mêmes coéquipiers dans tous les cas. Ouais.
Et voilà aussi, les défenseurs sont focalisés sur lui. Maintenant, peut-être je vais être mauvaise langue, est-ce que c'est pas une blessure diplomatique, parce qu'il a vu que peut-être ça allait être un peu compliqué cette CAN et que
pour rentrer le plus tôt possible
comme son ami Monsieur Klopp, enfin je sais pas,
ça, oui,
pas dans leur tête comme l'attend pour jouer avec eux. Bon, mais moi ce que j'ai, enfin après dernier mot, ce que je veux dire, ce que je trouve bizarre, c'est que quand il s'est blessé, il est sorti. Et au lieu d'aller, comme d'habitude, on fait directement au vestiaire ou peut-être aller voir le médecin pour voir la blessure, il est resté sur le bord du terrain. Donc, je ne sais pas.
Non, mais c'est des grands joueurs, ils connaissent leur corps. Hein, ouais. Donc, s'il est resté au bord du terrain, certainement qu'il sait à peu près de quoi il souffre. Hein, parce que les joueurs, de façon générale, ont tous un petit bobo, hein, malgré tout. Les amis, on arrive allègrement comme ça, rapidement. Le Maroc peut-il encore échapper au regard, hein? Ils ont voulu se la jouer discret depuis, alors que c'est les demi-finalistes de la dernière quand même Coupe du Monde. Et Quentin, rapidement, en un mot.
Non, non. Le Maroc doit assumer son statut de favori dans cette compétition.
Ils ont donc, assumer.
Assumer.
Mon cher Alfred.
Le Maroc revient de la Coupe du Monde. Donc, quelque part, elle a quelque chose à démontrer.
Chakenza, rester discret pour être performant ou assumer?
Moi, je préfère qu'il soit discret parce que là, ça leur réussit.
Ça leur réussit, d'accord. Donc, tu préfères qu'il soit discret.
Oui, ça leur réussit.
Ibrahima?
Je pense pas qu'il soit discret actuellement. Donc, je vais leur dire de continuer sur cette lancée-là.
C'est-à-dire? Bah, d'être discret ou d'être... Parce que là, on a l'impression qu'ils sont discrets malgré tout.
Non, le souci dans la CAN, c'est qu'il y a beaucoup...
Dans la communication, je veux dire.
Non, c'est souvent les équipes les plus faibles qui parlent beaucoup, en fait. C'est ça qui est malheureux dans cette compétition. Ouais. Donc les Marocains, ils parlent pas beaucoup.
C'est un propos visé, là. Là, tu penses à qui, là?
Personne.
Abadou.
je dirais déjà de devrait déjà confirmer. Parce que bon, la première équipe qu'ils ont jouée, c'était pas... Bon, des foudres de guerre non plus, avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc ils doivent déjà confirmer avant déjà de parler. Je pense qu'ils doivent aussi quand même confirmer parce que je pense qu'ils ont joué une des équipes les plus faibles du tournoi pour l'instant. Là il y aura un beau derby contre le Congo
à suivre, hein,
c'est un derby, gros derby en Belgique, c'est un derby maintenant.
on va suivre ça de très près. Et puis les amis, il nous reste une minute, rapidement vos pronostics pour le match qui arrive là dans une minute là. Guinée-Gambie.
3-1 la Guinée. Hein.
3-1 pour la Guinée.
But de Mohamed Bayo.
Moi j'ai dit 2-0 pour la Guinée.
2-0 pour la Guinée. Chakenza.
2-0 pour la Guinée. Un but de Bayo. Et je vois vraiment un but de Kourouma vraiment qui rayonne vraiment. J'ai beaucoup aimé son premier match vraiment parce qu'il a été important.
Important.
Oui, dans le jeu sans ballon, il a été beaucoup important.
Ibrahima, ton pronostic Guinée-Gambie dans une minute là?
Je vois les Guinéens l'emporter. La Gambie c'est quand même faible, donc je vais dire 2-0 pour la Guinée.
Amadou va pas être d'accord avec toi.
Pour l'ancien quart de finaliste de la dernière CAN, j'irai 3-2 pour la Gambie avec un doublé de Moussa Baro et un but de Minté. Et pour la Guinée, on verra.
Merci. Merci les amis, en tout cas, d'avoir partagé ce Au bout du foot spécial CAN aujourd'hui. On va terminer avec Tiwoni, justement. Tiwoni qui est en concert du côté de l'Élysée Montmartre le vendredi 9 février 2024. Allez-y soutenir l'artiste, justement. Tiwoni en concert vendredi 9 février 2024, Élysée Montmartre, un artiste justement qu'on a reçu ici même dans Weekend Africain et qui vaut tout simplement le détour. Je reprends encore une fois Tiwoni, vendredi 9 février 2024, du côté de l'Élysée Montmartre à Paris. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre Au bout du foot. Salut.
Salut.
Femina di Gideon, Rastafari is the way, Mana be a Tafalaya. Mina go give up no days, what don't kill you make you stronger. I don't roll on the face, I break on the barriers. It's a long road to trust. Mina give up me, I leave up me, I give up me, I leave up me, I give up me, it's a long road to trust.
mentally, physically. I am trying not to cry. It's a language to chat. Me na give for me, I live for me, na give for me, I live for me, na give for me. It's a language to chat. Don't give up, one live up, don't give up, one live up, don't give up. A language to chat. Me na give for me, I live for me, na give for me, I live for me, na give for me. It's a language to chat. Don't give up, one live up, don't give up, one live up, don't give up. Natural is the way to go. And I give us more than what we can be. If what you reap is what you sow.
Some tribulation, I'm feeling so blessed.